On va finir avec ça et je vais laisser la parole maintenant à la chronique des apatrides anonymes pour la continuation du show. Donc, bonjour.
Salut Chloé, salut tout le monde qui écoute en profondeur. Donc, ben, c'est Halloween, donc je vais vous faire peur aujourd'hui. Je vais vous parler de Trump. non, pour vrai, si j'ai le temps, je vais parler un peu de la politique, de la campagne présidentielle actuellement, les promesses en immigration, sécurité frontière des deux principaux candidats. Je vais vous faire le vif de mon sujet aujourd'hui. Ça va être le bilan de 8 ans de Obama. Ce sera pas très beau. Il y en a beaucoup qui apprécient ce personnage, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de noirceur. Tout d'abord, on n'a pas le choix d'en parler aujourd'hui. Depuis une semaine, je pense qu'à peu près à chaque chronique, on vous en parle de cette année, la jungle de Calais. Donc, lundi dernier a été entamé le démantèlement et c'était pas la première fois qu'on tentait ça, mais là, on y a mis vraiment des moyens extraordinaires pour démanteler complètement, déplacer toutes les personnes et s'assurer que ce camp-là ne se reconstitue pas. Donc vraiment, on y a mis des moyens gigantesques, force policière énorme, des moyens financiers. On a voulu déplacer les 8000 personnes, une estimation de 8000 personnes qui s'y trouvent, les relocaliser un peu partout dans toutes les régions de France. On a ouvert, mais en tout cas, il y a 450 lieux qui étaient prévus, des CAO, des centres d'accueil et d'orientation, pour répartir géographiquement les 8000 personnes dans différentes régions de France. Et on voulait, l'autre objectif, c'est de maintenir une présence policière à peu près permanente, ou même militaire, je pourrais dire, pour, si j'utilise les termes du gouvernement français, éviter que des gens ne reviennent ou pour que des squats se multiplient. Et c'était déjà commencé cette semaine, il y a deux gares principales à Calais, déjà sur les quais des gares depuis quelques jours, il y a des comités d'accueil policiers qui font un peu du profilage, du contrôle aux faciès, donc tout ce qui n'est pas tout à fait blanc, se fait contrôler et certains se font retourner de là où ils viennent. En gros, comment ça se passait? Donc, l'évacuation a commencé lundi passé, le 24 octobre. On a ouvert un grand hangar où on accueillait, entre guillemets, les personnes réfugiées, les migrants, pour leur offrir deux régions. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, les personnes arrivaient avec une carte de France un peu grossière, on leur pointait deux régions. Par exemple, Bretagne, Bourgogne, on leur disait « choisissez, s'il vous plaît ». Mais on donnait pas plus d'informations, à savoir dans quelle ville les personnes allaient se retrouver, la taille de la ville, quelles sont les infrastructures disponibles là-bas. Est-ce qu'il y a un climat social qui est favorable à l'accueil des réfugiés? Donc, on disait simplement « choisissez une région ». Donc, ce qui se passait, c'est que la plupart des réfugiés, pour rester en groupe avec les personnes avec qui ils ont déjà des affinités ou les personnes de leur famille qui étaient déjà dans la jungle de Calais, choisissaient en général les mêmes régions pour se retrouver ensemble, mais ça ne fonctionnait pas nécessairement comme ça puisqu'il y a à peu près une vingtaine de places par centre. Donc, par exemple, un groupe de 40-50 qui souhaitait rester ensemble ne le pouvait pas. Donc, on leur présentait cette carte-là, on choisissait la région, on leur mettait un bracelet de couleur indiquant dans quelle région ils seraient déplacés, avec un numéro pour l'autobus, bref, toute une sorte de logistique un peu étrange comme ça. On voulait pas avoir des centres qui accueillent les gens qui contiennent plus que 20 personnes pour éviter des concentrations trop importantes, mais on n'expliquait pas pourquoi. C'est quand même une méga-giga opération. Donc, le lundi dernier, il y avait 60 bus qui partaient de Calais et qui s'en allaient dans plusieurs régions françaises, puis il y en a eu 45 mardi, 40 mercredi, ainsi de suite, jusqu'à mercredi dernier. Le dernier bus a quitté. En début d'opération, les observateurs rapportaient que c'était un climat plutôt calme puisque c'était les personnes qui n'étaient pas réticentes à partir, qui se présentaient en premier au centre de répartition géographique, si je peux appeler ça comme ça. Donc, le climat était plutôt bon. Et plus les jours avançaient, plus les tensions étaient palpables avec la police, entre les réfugiés, les militants qui les appuyaient et les forces policières qui étaient sur place. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on dit qu'on a relocalisé, qu'on a déplacé plus de 6000 personnes, incluant 1600 mineurs isolés. Donc, sachant qu'il y avait une population estimée d'environ 8000 personnes à Calais, on en aurait 1000 à 2000 qui seraient en fuite ou dans la nature, donc on ne connaît pas leur sort. On va leur souhaiter bonne chance. C'est probablement un autre chapitre de leur vie un peu difficile qui commence. Le sort des 1600 mineurs isolés est toujours incertain. Il y a des négociations entre la France et l'Angleterre pour que les autorités britanniques en acceptent une partie. Et entre-temps, ces mineurs-là sont logés dans des baraquements temporaires à proximité de Calais. La nouvelle de la destruction du camp a modifié certains comportements migratoires. Donc, beaucoup de gens ont modifié leur route, beaucoup de gens qui étaient en route vers l'Angleterre, pour se rediriger vers Paris ou vers d'autres villes qui attirent normalement des réfugiés. Par exemple, là, les tunnels de métro dans le nord de Paris, je me rappelle pas les noms, mais il y avait eu des opérations policières assez violentes. Donc, on dit que les camps sont de retour. Alors, probablement qu'on va jouer encore au chat et à la souris et que les autorités de la ville de Paris vont réenvoyer la police pour déloger les gens qui vont repartir et revenir, et ainsi de suite. Je vais citer un Christian Salomé, c'est le président de l'Auberge des migrants, c'est une des principales assos d'aide aux réfugiés de Calais. Le nombre de ceux et celles qui restent sur la lande est difficile à estimer. Ils pourraient grimper facilement. Ils restent dans l'idée d'atteindre l'Angleterre, c'est toute leur vie. Ils seront rejoints par d'autres car les guerres vont mettre de nouveaux réfugiés sur les routes. Il est possible que certains partis en centre d'accueil cette semaine soient déçus et reviennent. La jungle pourrait bien, tôt ou tard, renaître de ses cendres. D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui, j'ai fait des petites recherches rapides sur Internet, un journal local français de Charente-Maritime. Le titre de l'article était « Les jeunes réfugiés venus de Calais ne veulent pas rester ». 3 jours après leur arrivée, la moitié des 22 jeunes s'étaient enfuis. Ils veulent rejoindre l'Angleterre, pas la Charente-Maritime. Donc, ça donne une idée ça ne donne pas une idée de ce qui va se passer, mais on se rend compte que le problème n'est pas réglé quand on lit des choses comme ça. Le vif de mon sujet aujourd'hui, avant de vous parler des deux merveilleux candidats à l'élection présidentielle américaine, on sort de 8 ans de régime de Barack Obama, donc c'est un bilan important. Je vous parlerai pas de son bilan général. On va vraiment se concentrer sur frontières, sécurité, immigration, donc les thèmes habituels à la chronique des apatrides anonymes. Donc, le nombre de prisons aux États-Unis a continué d'augmenter, donc la population carcérale aussi. La population noire à l'intérieur des prisons a aussi continué d'augmenter. On est rendu à peu près annuellement à un nombre de 30 000 personnes qui meurent par balle aux États-Unis. C'est un record, je crois. À la défense de Barack Obama, plusieurs amendements ont été proposés, mais toujours rejetés, soit par le Sénat, soit par le Congrès. Des amendements qui visaient à encadrer l'accès aux armes. Bref, ça n'a pas marché et la guerre que se livrent eux-mêmes les Américains se poursuit, si je peux m'exprimer ainsi. Profilage racial, ça s'est considérablement aggravé aussi dans les dernières années, particulièrement dans la dernière année. Profilage racial et les Noirs non armés tués par des policiers blancs ont continué d'augmenter à un niveau quasi quotidien, un niveau épidémique, et en parallèle, on peut affirmer, en tout cas beaucoup d'observateurs affirment que la police américaine s'est considérablement militarisée grâce surtout à des programmes d'écoulement de surplus militaire qui sont dirigés vers les counties et les villes qui administrent les services policiers aux États-Unis. Donc beaucoup affirment que ça ressemble de plus en plus à une force d'occupation, donc la police aux États-Unis, surtout dans les quartiers, ce qu'on appelle souvent les « inner cities » ou les quartiers urbains les plus pauvres aux États-Unis. Le président n'a jamais proposé de mesures concrètes visant à renverser cette situation-là. Là, je parle du profilage ou de la militarisation de la police. Je vais vous donner une réaction type d'Obama qui me fait beaucoup penser à Trudeau, tu sais, en termes de gestion de crise. C'est beaucoup dans l'image, beaucoup dans le « je suis cool », tout va bien. Par exemple, un professeur de Harvard noir s'était fait arrêter dans sa propre maison par un policier qui l'accusait d'être un cambrioleur. Le professeur lui montrait sa carte d'enseignant de Harvard, des preuves d'adresse, mais il a quand même été arrêté. Obama, plutôt que de réagir, dirait on va mettre des mécanismes en place pour enrayer ce fléau, on va étudier la question, bien, il a plutôt invité le professeur à prendre une bière à la Maison-Blanche. On a fait quelques photos et voilà, c'est tout. Ça, c'est du leadership. Excusez, c'est mon éditorial. D'autres thèmes que je vais aborder dans le bilan d'Obama. Donc, il avait beaucoup fait campagne sur l'immigration et la régularisation dès sa campagne en 2008 pour obtenir un peu le soutien de la communauté latino. Donc, souhaitait régulariser de manière progressive de 5 à 10 millions de personnes qui étaient en situation irrégulière aux États-Unis. Donc, ça lui a permis de remporter les élections, les deux élections même. Par contre, effectivement, il y a eu des projets de loi, il y a eu des décrets présidentiels, mais tout a été cassé soit par les autres chambres de représentants, soit par des tribunaux. La Cour suprême, même tout récemment, en octobre ce mois-ci, a bloqué tous les décrets qui ont été signés concernant la régularisation des personnes sans papier aux États-Unis. Donc, on se retrouve maintenant à une estimation de 11 millions de personnes non documentées vivant de manière clandestine, si on veut, aux États-Unis. Bref, il n'a pas pu tenir ses promesses. Il y avait peut-être une volonté sincère. On peut accorder le bénéfice du doute, mais beaucoup affirment qu'il savait qu'il ne pourrait pas remplir cette promesse-là, mais l'a fait quand même pour un peu dans une optique électoraliste. D'autres thèmes liés à la sécurité, la militarisation, les frontières, tout ça, on dit que depuis la crise des missiles à Cuba qui a eu lieu en 1962, on n'aurait jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire. Donc, Obama a beaucoup favorisé l'installation de missiles nucléaires dans les pays de l'OTAN qui jouxtent la Russie, donc en Pologne, dans les pays baltes. Et il a aussi considérablement modernisé l'arsenal nucléaire américain. Donc, beaucoup de budget a été accordé à ça. La prison de Guantanamo, on s'en rappelle, ça, c'était une promesse ferme. Ça, il n'y avait pas question de « je vais essayer, je vais fermer Guantanamo ». C'était vraiment ce qui était sur la table. 8 ans plus tard, Guantanamo est toujours ouvert avec plein de prisonniers faussement accusés de terrorisme et on y pratique la torture allègrement. Je vais passer sur les cas de Proche-Orient, Syrie, Irak, Libye, parce que ça, on pourrait parler pendant 4 jours de ça, sans même respirer. Peut-être juste dire, la présence américaine est toujours aussi forte actuellement. La région est encore plus déstabilisée, je crois, qu'il y a 8 ans. Évidemment, c'est pas toute la faute personnellement du président, mais disons que ça s'est pas beaucoup amélioré. Obama, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Appui indéfectible à Israël, à l'Arabie Saoudite, à d'autres régimes un peu douteux comme ça. Perquisition, mandat d'arrêt, menace de peine de mort, statut de traître à la nation pour ce qu'on appelle les whistleblowers, comme Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, qui avait leaké des vidéos de crimes de guerre américains en Irak. Patriot Act, c'était un héritage de George Bush, cette loi qui permet de surveiller les Américains. Obama en a hérité, donc ça, c'est pas de sa faute personnellement, mais pour la majeure partie de ses 2 mandats, le Patriot Act a été en vigueur jusqu'à octobre 2015, donc il y a un an, où il a été suspendu pendant 48 heures et remplacé par une nouvelle loi appelée, attention, Freedom Act. Donc, on a rendu ça plus cute avec un nom comme ça. On a qualifié l'adoption du Freedom Act comme une réforme majeure, une belle victoire de la démocratie, mais en gros, c'est la même chose que le Patriot Act. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que au lieu que ce soit la NSA, la National Security Agency qui stocke les données des gens, ce sont maintenant les fournisseurs privés Internet et de téléphonie.
Donc, si on veut trouver la grande différence entre l'avant et après Patriot Act, c'est que maintenant, avec le Freedom Act, il s'agit en fait d'une sorte de sous-traitance partielle de la surveillance américaine. Donc, le stockage des données n'est plus assuré par une agence gouvernementale, mais par une entreprise privée. Donc, on peut pas dire que ce soit une grande amélioration. Sinon, dernier élément dont je vais vous parler à propos du bilan d'Obama, donc dernier, mais non le moindre élément, c'est l'arrivée des drones dans le paysage politique et militaire américain. Alors, on peut qualifier ça de l'un des héritages les plus importants d'Obama. Il s'agit véritablement d'une révolution dans la façon de faire la guerre. Obama a autorisé pas moins de 506 frappes qui ont officiellement, à tout le moins, tué 3900 personnes. Certaines des frappes n'ont pu être révélées que par des groupes de pression parce qu'elles avaient été déclarées secrètes par l'administration Obama. Donc, il y a eu des fuites. Il y a aussi des groupes comme Human Rights Watch et des groupes de l'Organisation des Nations Unies qui ont pu révéler certaines frappes, ainsi que des observateurs sur place. C'est un mode d'opération qui est pour le moins étrange avec des technologies qui sont pas au point, donc c'est un peu hasardeux de fonctionner. En fait, le principe même est pas très moral, mais bref, c'est hasardeux dans le sens que on se base un peu sur des algorithmes de comportement observés par satellite pour tirer sur des groupes de gens parmi lesquels se trouvent souvent des enfants. Donc, c'est un peu des technologies de détection de mouvement. On note des algorithmes de mouvement qui sont des comportements qui échappent parfois à la logique. Donc, des enfants qui courent dans toutes les directions, par exemple, ça peut être perçu comme louche par les algorithmes qui analysent les mouvements. Donc, des enfants qui courent dans toutes les directions, c'est perçu parfois comme du terrorisme pour le robot qui est en fonction. Le programme d'analyse de mouvement détermine, il faut tirer. parce que des enfants jouent au ballon. Bref, on utilise des technologies meurtrières qui sont pas au point, un peu comme Microsoft, on teste nos logiciels en les envoyant sur le marché directement, en envoyant des mises à jour directement dans vos PC. C'est un peu ce qu'on fait avec les drones, mais sauf avec des conséquences quand même plus graves. Donc, on teste les technologies live sur les humains, donc des technologies meurtrières, et on s'ajustera au fur et à mesure. Donc, il aura fallu la mort de 8 Américains. Je crois que c'était en 2014, pour que certains médias sonnent l'alarme et réveillent une petite partie de la population. Mais il aura suffi d'affirmer que des correctifs sont régulièrement apportés pour améliorer les technologies. Et ça aura suffi à rassurer l'opinion publique. Donc, on améliore sans cesse, ne vous inquiétez pas, etc. Donc, conclusion sur les drones. Donc, plus important encore que leur utilisation croissante sous Obama, on peut dire que le grand succès de Barack Obama aurait été non seulement d'institutionnaliser, mais de normaliser cette pratique, mais surtout de la rendre acceptable aux yeux de la population américaine. Ah oui, juste avant de terminer sur Obama, je voulais juste vous mentionner que c'est un récipiendaire du prix Nobel de la paix. Je termine rapidement cette chronique avec les promesses de ces deux possibles successeurs, donc Mme Clinton et M. Trump. Mme Clinton, rapidement sur les questions d'immigration, sécurité frontière, etc., veut régulariser la situation d'une bonne partie des 11 à 13 millions de personnes non documentées et les naturalisées, ainsi que fermer, ça c'est attention, c'est relativement nouveau par rapport à Obama, donc fermer les centres de détention de personnes sans papier. Donc, en gros, mis à part ce dernier élément, ça ressemble beaucoup aux promesses non réalisées d'Obama. Ça sent un peu le réchauffé, donc est-ce que le poisson va mordre cette fois-ci? Et aussi, Mme Clinton dit vouloir encourager l'obtention de la citoyenneté et se positionne en faveur du regroupement familial. Petit détail amusant sur Mme Clinton, avec toutes les révélations qu'on a pu obtenir grâce à WikiLeaks dans les dernières semaines, on apprenait entre autres qu'elle avait suggéré d'assassiner Julian Assange par drone alors qu'elle était secrétaire d'État. Donc en anglais, elle disait « Can't we just drone this guy? » Et sinon, pour terminer, M. Trump, bon là, évidemment, on nage en délai total, on atteint le point Godwin assez facilement avec lui, donc promet un filtrage extrêmement poussé des immigrants, veut bâtir le mur à frontière avec le Mexique pour freiner une immigration clandestine qui est en chute libre depuis plusieurs années. Il construirait ce mur et enverrait la facture au gouvernement mexicain. Veut déporter les personnes en situation irrégulière, donc on disait 11 à 13 millions tantôt. Lui utilise le terme « illegal aliens » pour qualifier ces gens-là. Il permettrait aux meilleurs d'entre ces personnes de revenir si ces personnes suivent le processus normal. Voulait ficher, je ne sais pas si c'est toujours son programme, voulait ficher tous les musulmans et musulmans-musulmanes et leur interdire l'accès au pays pour une période indéterminée. Veut imposer un test de valeur aux immigrants pour sonder leur opinion sur la liberté de religion, l'égalité homme-femme et les droits des homosexuels. Donc, ça, il a probablement copié ça sur la CAQ de François Legault. Donc, l'égalité homme-femme, les droits des gays, liberté de religion, toutes des valeurs qui ont tout le temps été attaquées par Trump et par son parti qui est islamophobe, raciste, homophobe et misogyne. Donc, un petit peu étrange. Alors, je sais pas si les immigrants échouent le test, on leur donne une carte du Parti républicain, et s'ils le réussissent, on leur donne la citoyenneté, ou l'inverse. Bref, c'est un peu confus. Sinon, dernièrement, il accusait l'administration Obama de vouloir accélérer le processus de naturalisation des étrangers. Dans sa bouche, à M. Trump, ça sonnait comme ça. Les services d'immigration laissent entrer les clandestins pour qu'ils viennent voter pour Clinton. Donc, je sais pas s'il sait que c'est pas possible d'obtenir la citoyenneté américaine et donc le droit de vote immédiatement après être entré sur le territoire, surtout de façon dite illégale. Donc, il mélange plusieurs concepts ici, mais c'était repris par des partisans, par des chroniqueurs qui appuient M. Trump. Donc, c'est un peu comme si les services américains d'immigration avaient des caravanes dans le désert pour intercepter des Mexicains, pour faire des naturalisations express, les inscrire sur la liste électorale et leur dire d'aller voter pour Mme Clinton. Ça termine la chronique des apatrides anonymes d'aujourd'hui. Marie-Ève sera là dans 2 semaines. Merci, bonne soirée.